Voilà, donc nous avons commencé avec Sainte Thérèse dans son contexte historique. Nous nous sommes un peu éloignés d'elle tout en restant en contact avec elle quand même. Et maintenant, nous revenons plus directement sur Sainte Thérèse avec des éclairages du Père Étienne d'abord et de Monsieur Jonquet ensuite.
Le but de cette intervention de ce matin, c'est de souligner quelques enjeux qui conditionnent aujourd'hui la transmission du message de l'intériorisation progressive, laquelle est, selon le Père Marie-Eugène, le mouvement propre de la vie spirituelle. Selon ce qu'il dit dans « Je veux voir Dieu », nouvelle édition, page 28, examinons toute la spiritualité thérésienne est dans ce mouvement vers Dieu, présent dans l'âme, pour s'unir parfaitement à lui. Et il définit le plan du chapitre en question. Examinons successivement les éléments essentiels, la présence de Dieu dans l'âme, l'intériorisation progressive de l'âme, qui en exprime le mouvement, et l'union profonde avec Dieu, qui en est le but. Au juste, que devons-nous entendre par cette formule « intériorisation progressive de l'âme » qui exprime le mouvement vers Dieu ? Et au juste, de quoi parlons-nous lorsque nous disons « âme » ? Plus loin, dans « Je veux voir Dieu », nouvelle édition, page 34, on trouve ceci. « La vie spirituelle est une intériorisation progressive. » La vie spirituelle, dit le texte, sera par excellence une vie intérieure. La marche vers Dieu sera une intériorisation progressive jusqu'à la rencontre, l'étreinte, l'union dans l'obscur en attendant la vision du ciel. Alors l'affirmation est claire, et nous sommes dans un moment d'introduction destiné à soulever quelques questionnements. L'affirmation est claire, il existe une vie spirituelle et celle-ci est une intériorisation progressive. Mais que se passe-t-il lorsque la notion de vie spirituelle devient floue ou ambiguë et que la question de l'intériorité est polysémique, c'est-à-dire a plusieurs significations? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la notion de vie spirituelle devient floue ou ambiguë et que la question de l'intériorité est aussi, disons, équivoque? En quoi la proposition d'une vie spirituelle conçue comme intériorisation progressive, c'est-à-dire, ainsi l'entendent nombre de personnes, comme éloignement progressif de l'extérieur, du relationnel, de l'engagement, de la rencontre avec autrui, en quoi cette proposition peut-elle être entendue comme un message susceptible de rendre heureux? Les recherches d'hier matin nous ont permis de percevoir une notable différence entre les textes approchés des différents auteurs et l'impression qui se dégage de ceux de Thérèse. Je me risque à suggérer que cette différence réside dans le fait qu'il est impossible de dissocier l'enseignement de Thérèse de sa vie personnelle, insérée dans le contexte de son temps, et que, justement, dans son acte d'écriture, se trouve réuni, sans confusion et sans séparation, le psychologique, l'affectif, le mystique, l'artistique et même le biographique. Une seule catégorie est peut-être absente, c'est la catégorie d'autofiction. Et encore, faudrait-il le vérifier, tant l'humour qu'elle a sur elle-même et sur les autres est délicat et profond. Les recherches d'hier après-midi nous ont sans doute aidés à prendre conscience de la complexité du contexte qui est le nôtre et à percevoir que les mots qui nous parlent comme catholique, et nous livre quelque chose de la réalité de la vie spirituelle, ne sont pas tous porteurs de la même signification pour les personnes que nous rencontrons. À ce sujet, si, à Dieu ne plaise, il se trouvait parmi nous des personnes qui auraient trouvé l'après-midi d'hier, sinon inutile, peut-être très accessoire, Voici un court texte de Ratzinger. La crise de l'annonce chrétienne qui s'intensifie depuis un siècle provient en grande partie du fait que les réponses chrétiennes passent à côté des questions des hommes. Elles ont toujours été et elles sont encore les vraies réponses, mais comme elles n'ont pas été développées à partir des questions, elles sont restées sans effet. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de se poser les questions avec l'homme qui cherche. C'est une composante essentielle de l'annonce en tant que telle, car ce n'est qu'ainsi que la parole, Wort, peut devenir réponse, Antwort. Nous devons par conséquent, continue Ratzinger, faire d'abord nôtre le questionnement sur Dieu de l'homme d'aujourd'hui, afin d'y redécouvrir Dieu et de pouvoir le dire. La difficulté est évidemment bien réelle. Elle constitue même la raison première mise en avant par le pape Jean XXIII lors de son discours d'ouverture de Vatican II. Autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Il faudra attacher beaucoup d'importance à cette forme et travailler patiemment, s'il le faut, à son élaboration. Que veut dire respecter fidèlement? Notons que cette pensée se trouve dans Je veux voir Dieu, édition du Carmel, 8e édition, 1998, page 88, nouvelle édition, page 90. Les maîtres de vie spirituelle, des saints ordinairement, dont l'Esprit Saint pourvoit l'Église en tout temps, sont à la fois des esprits éclairés sur les exigences de Dieu et des psychologues pénétrants. Ils connaissent les principes de la vie spirituelle et en tirent des conseils précis adaptés aux besoins des âmes qu'ils doivent guider. Et voici la phrase que je veux souligner. Leur enseignement trouve dans la fidélité aux principes traditionnels et dans son adaptation aux besoins du temps, sûreté doctrinale, originalité et efficacité. Notons bien ceci. La condition pour qu'un enseignement trouve sa sûreté doctrinale, son originalité et son efficacité, ou les conserve, c'est-à-dire ne les perde pas, est double. Fidélité aux principes traditionnels et adaptation aux besoins des temps. Ce qui signifie que la sûreté doctrinale intègre l'effort d'adaptation aux besoins des temps. Je me permets de remarquer que le texte distingue, certes sans les opposer, principe traditionnel et sûreté doctrinale. Les confondre est une erreur très lourde de conséquences. Les distinguer est vital. Il est donc de notre devoir d'affronter cette difficulté avec lucidité autant que possible et aussi avec simplicité. Pour le faire, je voudrais revenir à une tentative de définition des termes employés quand nous parlons des choses qui nous tiennent très à cœur et qui sont d'une grande urgence pour le monde contemporain. Ces termes sont très nombreux. Parmi eux, certains sont directement issus des écrits bibliques, comme par exemple bonheur, joie, souffrance, grâce, péché, bien, mal, foi, cœur, esprit, spirituel, vie, mort, amour, espérance, chair, corps, liberté, conscience. Si nous prenons le mot amour, nous devrons nous souvenir qu'il recouvre des réalités bibliques très diverses et nous préoccuper soigneusement de ce qu'il dit, de ce qu'il signifie dans la pensée de ceux et de celles qui échangent avec nous. Il n'est que de relire l'encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, pour se rendre compte à quel point ces questions sont vitales lorsqu'il réintègre l'éros dans la définition même de l'amour en Dieu. D'autres termes ne sont pas représentés dans la Bible, comme surnaturel, personne, intériorité, absolu, ou le concept de vie spirituelle, ou encore la notion d'union hypostatique, ou même celle de corps mystique. Ces derniers termes ont parfois une origine très sérieuse, comme ceux qui sont issus et utilisés dans les formules officielles de la foi catholique. D'autres viennent plutôt d'écoles théologiques qui se sont imposées comme universelles dans l'Église latine, par exemple le terme de « personne ». Je vous signale à ce sujet un article de Joseph Ratzinger dans le livre « Dogmes et annonces », pages 187 à 207, où il n'hésite pas à critiquer de manière très précise la compréhension dominante en Occident de la notion de personne, compréhension qui est issue de lectures incomplètes de saint Thomas d'Aquin. Mais au fond, qu'est-ce qu'une définition ? D'où vient la signification d'un mot, d'une expression ? Dans le cas du christianisme, une loi se dégage en ce qui concerne la production du vocabulaire théologique. Les mots les plus techniques, comme par exemple le mot « transsubstantiation », utilisé pour parler de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, doivent être entendus selon le sens commun. Mais qu'est-ce que le sens commun ? C'est la signification qui jaillit de l'expérience d'une réalité. Certes, chaque expérience est singulière puisqu'elle est le fait d'une personne singulière. Et la singularité de l'expérience implique qu'elle ne peut jamais être communicable en totalité. Il existe donc une distance, faute de mieux, j'emploie ce mot, mais sans référence à Jean-Luc Marion, entre le fait de l'expérience et le discours par lequel je m'efforce d'en rendre compte. On peut penser à une phrase de la fondatrice de l'Institut Notre-Dame de Vie, qui a donné son nom à cet amphithéâtre, « S'exprimer, c'est redescendre ». Il faudrait ici remercier saint Augustin d'avoir osé dire cela et pour autant de n'avoir pas cessé de parler et d'écrire. Il attestait ainsi l'insuffisance du langage en même temps que sa nécessité. Par conséquent, si nous cherchons à nous bloquer sur la définition des mots en tant que tels, nous risquons fort de ressembler à celui qui, à l'époque de Thérèse d'Avila, courait ou allait courir dans un roman célèbre pour combattre les moulins à vent. Par ailleurs, s'il s'agit bien de la communication d'une expérience, il faut noter que la personne, c'est-à-dire chacun et chacune de nous, n'est pas simplement sa singularité, son individualité. De fait, j'accède à ma singularité par le dialogue, par la relation à autrui. Il est donc nécessaire d'admettre que la personne est également relation à autrui et que la mise en œuvre de cette relation est pour elle le chemin d'accès à sa singularité. Dès lors, la dignité de la personne humaine, je veux dire sa capacité fondatrice. Car dignité indique d'abord capacité à. La dignité de la personne humaine réside dans ce que Vatican II, à la suite de la Bible, nomme capacité ou vocation, c'est-à-dire appel, au colloquium ou au dialogos, au colloque, au dialogue. Et nous voilà au centre très simple de la vision catholique de la personne humaine, un être appelé qui reçoit dans l'acte de celui qui l'appelle la capacité de répondre à cet appel. Lors donc que nous parlons de vie spirituelle ou de vie intérieure, nous désignons la totalité de la vie du sujet humain, la totalité de son existence, et nous considérons celle-ci non pas en tentant de séquencer son ADN pour séparer les morceaux spirituels des morceaux charnels et psychiques et autres, mais en les appréciant dans leur totalité à la lumière de leur finalité. La vie apparaît dès lors comme une réalité qui porte le vivant vers sa fin, vers sa finalité. Dès lors, la vie spirituelle est la totalité de l'existence concrète d'un sujet singulier et relationnel, considéré comme capacité de répondre à un appel et d'entrer en dialogue. Corps, âme, cœur, conscience, pensée, volonté, pour reprendre les grands binômes anthropologiques mis en place par le Concile Vatican II, mais aussi mémoire, activité, responsabilité, affectivité, et toutes les facettes du complexe humain telles qu'elles sont mises en lumière par les diverses conceptions anthropologiques, tout cela est considéré par le regard biblique sur l'homme comme disposition au dialogue. Encore une fois, cette réalité très simple est au centre de l'effort d'élaboration fourni par Vatican II. Et on peut sans peine comprendre que, sur ce point, la définition thérésienne de la prière comme dialogue dans l'amitié, fréquent avec Dieu, dont nous confessons dans la foi qu'il nous aime, définition très large, est d'une grande actualité. Si l'on ajoute à cela que, du fait de son appartenance au christianisme, Thérèse d'Avila est, dans son expérience personnelle, puis dans son enseignement, conduite à reconnaître que ce Dieu qu'il aime est tout entier dans son âme, mais aussi tout entier en Amérique, et tout entier dans les protestants, et dans toutes les personnes qui habitent ce monde. Alors on devra reconnaître que, d'une certaine manière, vie spirituelle, comme dialogue avec Dieu, est tout autant marche vers l'intérieur que galop vers l'extérieur. On rejoindra ainsi l'expérience fondatrice de Paul dans Galates 1,15. Lorsque Dieu daigna révéler en lui son Fils pour qu'il l'annonce aux nations. Et l'on verra donc un Paul courir en même temps au plus loin de là où il est, on appellera ça l'extérieur, et au plus profond de ce qui il est, on appellera ça l'intérieur. Mais tout cela sera ressaisi par la même finalité, ce qui constitue proprement la vie spirituelle, la réponse à celui qui, le premier, entame avec toute personne un dialogue que l'on qualifiera de créateur et sauveur, mais sans séparer ces deux dimensions qui sont, du point de vue de l'homme, la représentation de l'unique dessein divin. Deux conséquences qui se manifestent assez clairement dans l'expérience de Thérèse et que je voudrais souligner avec deux textes classiques que vous connaissez évidemment, l'un pris dans la vie au chapitre 8 et le numéro 12 et l'autre pris aussi dans la vie au chapitre 22 numéro 10. Si la conception de la vie est prise par rapport à sa finalité, et si la personne de l'homme, en tout cas au temps de Thérèse d'Avila, et d'une manière vraiment très très différente à notre époque, si la personne humaine sait que pour aller vers le but, elle a besoin d'un chemin, d'une aide, disons de médiation, alors on peut comprendre la profondeur de ce que Thérèse dit lorsqu'elle analyse son attitude en écoutant des sermons. Activité évidemment très prégnante pour les religieuses de son temps et qui devait sans doute être parfaitement aussi pénible pour elle que pour nous. Le tourment que me causaient les sermons n'était donc pas à dédaigner. Un goût extrême m'y portait. Et si j'entendais quelqu'un bien prêcher, avec âme, je me prenais pour lui d'une particulière amitié, malgré moi. Et je ne sais d'où me venait ce penchant. Il était rare qu'un sermon semblât si mauvais que je ne l'écoute de bon cœur, même si le prédicateur ne prêchait pas bien, au dire de ses auditeurs. Elle ne dit pas virgule dont j'étais. S'il était bon, j'y trouvais un agrément tout particulier. Je ne me lassais presque jamais de parler de Dieu ou d'entendre parler de lui, et cela dès que j'eus commencé à faire oraison. Parler de Dieu, entendre parler de lui, dialoguer sur Dieu. D'une part, les sermons m'apportaient un grand réconfort, d'autre part, ils me tourmentaient. Je comprenais alors que je n'étais pas celle que j'aurais dû être sous beaucoup d'aspects. Et voilà le point. Je suppliais le Seigneur de m'aider. Mais à ce qu'il me semble maintenant, je devais avoir le tort de ne pas mettre toute ma confiance en sa majesté et de ne pas perdre toute celle que j'avais en moi. Je cherchais un remède, je faisais diligence, mais je ne comprenais pas que tout cela ne sert pas à grand-chose si, repoussant entièrement la confiance en nous-mêmes, nous ne la reportons pas sur Dieu. Et voilà le point. Je désirais vivre, comprenant bien que je ne vivais point, autrement dit que j'étais morte, n'est-ce pas ? Mais que je luttais avec une ombre de mort. Il n'y avait toutefois personne pour me donner la vie, et je ne pouvais la prendre moi-même. Et voilà, nous sommes ici au centre, évidemment, de l'expérience thérésienne de la vie spirituelle. La vie est reçue. Et elle est reçue d'autrui. Et ne pas consentir à la recevoir d'autrui, c'est lutter avec une ombre de mort. Elle ajoute, celui qui pouvait me l'a donné avait raison de ne pas venir à mon secours, car aussi souvent qu'il m'avait ramené à lui, je l'avais abandonné. Et nous voyons apparaître ici un élément tout à fait fondamental dans la vision si simple de la personne humaine biblique et actuelle, c'est qu'il s'agit non simplement d'un dialogue, mais d'un dialogue entre celui qui peut et celui qui ne peut pas. Un dialogue, autrement dit, qui devient un dialogue de salut. J'ai été frappé hier dans nos échanges et les textes que nous avons écoutés, et les enseignements que nous avons reçus, de voir apparaître fréquemment la question de la souffrance, mais jamais la question du mal. la question du mauvais. Or, la conception biblique de la personne humaine, si je la résume d'une phrase que l'on trouve dans Lumen Gentium 8, c'est qu'elle chemine entre les persécutions du mauvais et les consolations de Dieu. Dit autrement, reconnaître à la personne humaine sa dignité fondamentale de cette vocation à dialoguer avec Dieu ne signifie pas que la personne humaine dans son histoire, hic et nunc, ici et maintenant, soit en état de faire entrer dans ce dialogue toutes les dimensions de son être. Il s'agit donc de bien considérer que la vie spirituelle en tant que telle est une transformation du sujet singulier et social en vue de faire de ce sujet une réalité tout entière dialogante. Et dialogante en recevant, j'allais dire, le contenu du dialogue qui est essentiel à son existence, à savoir d'où venons-nous et où allons-nous, par quel chemin y allons-nous, et dialoguante avec autrui, en recevant d'autrui un chemin pour avancer et en proposant à autrui également un chemin pour avancer. Et ici apparaît la responsabilité fondamentale de la personne. Je désirais vivre, comprenant que je ne vivais point. Je ne sais pas s'il existe, certainement il en existe, mais en tout cas cette formulation-là apparaît bien comme un des traits constitutifs du sujet que je rencontre en allant faire mes courses et que je suis moi-même en fait. Vivre ou mourir ? Et vivre comment ? Et mourir pour quelle raison ? Et accepter de mourir à quelle dimension de mon existence pour vivre plus pleinement, voyez ? Je souligne donc dans ce texte de Sainte Thérèse que si nous parlons de vie spirituelle, nous parlons d'abord de finalité. Nous ne parlons pas d'abord de telle ou telle dimension du sujet. Toutes les dimensions constitutives du sujet, de la personne, de moi, de vous, du je qui dit moi, qui dit nous, enfin tout ce que vous voulez, sont rejointes, mais à égale dans la dynamique de la vie spirituelle telle que la Bible l'annonce et telle que Vatican II le met en lumière. Il faut vraiment accueillir comme une nouvelle heureuse et finalement une prise en compte bien meilleure et plus complète du mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Et quand il nous spiritualise le cœur, il en fait un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Autrement dit, la totale réalisation de la spiritualisation de la personne, c'est sa pleine charnélisation selon le dessein divin du salut. Et autre élément de ce texte de Thérèse, c'est l'importance de la confiance en autrui pour vivre de plus en plus la réelle estime de soi. Il est absolument désastreux de présenter la vie spirituelle comme une perte de confiance en soi. C'est une injure faite au Christ. La question n'est pas de perdre la confiance en soi, comme la question n'est pas de aliéner sa liberté. La question est de fonder la confiance en soi et de fonder la liberté. La question n'est pas de s'écraser pour faire place à l'esprit, comme si un père de famille devait détruire dans son fils les forces qu'il a pour manifester davantage sa paternité. C'est un scandale de penser ça. C'est un péché, c'est un blasphème. quand on pense que Dieu ose se dire le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, il faut bien donc que Moïse soit libre, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit autonome pour refléter quelque chose de la liberté, de la bonté et de l'autonomie de Dieu. Ou alors on fait un peuple d'esclaves. Et rien n'a de sens humain authentique si nous perdons de vue cette réalité-là. Quand le père Marie-Eugène, dans « Je veux voir Dieu », page 1048 dans l'ancienne édition, dit « L'Esprit Saint se fait humble derrière ceux qu'il a saisis pour les glorifier », il ne dit pas autre chose. Que le chemin soit l'appauvrissement, c'est bien possible, mais l'essentiel n'est pas là. Je voudrais prendre dans les 5-10 minutes qui me restent, parce que j'ai décidé de parler 45 minutes précisément et pas plus, je voudrais prendre un autre texte de Sainte Thérèse qui est bien connu et qui souligne aussi quelques éléments qui pourraient ne pas nous être inutiles. Je n'ai pris que l'extrait, il faudrait le placer dans l'ensemble du chapitre 22 de la vie, c'est le numéro 10. Ça nous éclairera aussi sur la vie spirituelle comme intériorisation, mais ça, l'intériorisation, on y viendra peut-être un peu plus tard si je ne me laisse pas emporter. Ce qui n'est pas encore arrivé, je vous remarque. Et la fermeté du propos était juste destinée à me réveiller moi-même. Pour en revenir au second point, bon, il y en avait un premier avant, mais je ne l'ai pas... Mais c'est celui qui m'intéresse, mais pour vous, ça ne fera aucun doute, puisque vous êtes en face de moi. Nous ne sommes pas des anges, mais nous avons un corps. Vouloir faire l'ange pendant que nous sommes sur terre, et sur terre autant que je l'étais, c'est de la folie. Notre pensée doit avoir d'ordinaire un point d'appui, même si l'âme sort parfois d'elle-même, ou si elle est si pleine de Dieu, confère relation 6 octobre 1581, Palencia, même si elle est si pleine de Dieu qu'elle n'a besoin d'aucune chose créée pour se recueillir. Mais alors, qu'est-ce qu'elle entend par recueillement dans ce texte ? D'abord, elle dit qu'être si plein de Dieu, ça, cet état n'est pas habituel. Donc, cet état n'est pas habituel. Mais, dans les affaires, les persécutions, les épreuves, lorsqu'on n'est pas dans la paix coutumière, aux heures de sécheresse, c'est un très bon ami que le Christ, car nous voyons l'homme en lui. Nous voyons ses faiblesses, ses preuves, et il nous tient compagnie. Si on en prend l'habitude, il est très facile de le trouver près de nous. Donc, revenons quelques instants sur ce texte, si vous le voulez bien. Un très bon ami que le Christ. Il s'agit donc vraiment de la vie spirituelle. Ou alors, on n'a rien compris par rapport à la définition qu'elle en donne de l'oraison. Bon. Avoir Jésus pour ami. Bon. Mais cette amitié, donc cette vie spirituelle, intègre les affaires. Et dans l'expérience professionnelle, j'allais dire, de Thérèse comme fondatrice, les affaires, elle en a sa dose. Ça va du pigeonnier aux poules, à la fille naturelle d'un de ses frères qui revient inopinément des Indes, aux lettres au roi, aux avocats, aux évêques. C'est total, la discussion des habits, tout y passe. Le problème de santé de ses sœurs, de ses filles, comme elle dit, peu importe, tout y passe. Les affaires. Je pense toujours, en lisant ce texte, à ce que dit l'Ecclésiastique au chapitre 38, parlant des artisans. Les artisans, vous savez, ils ne viennent pas, comment dit-on, au conseil municipal. Ils font pas partie du politiquement correct. Mais enfin, dit le texte, ils opèrent une création éternelle et leur prière a pour objet les affaires de leur métier. Voilà. Dans les affaires, dans les persécutions. Actuellement, on se pose vraiment la question de savoir jusqu'à quand, en France, on aura le droit de vivre l'objection de conscience, les persécutions. Et quand on pense aux jeunes qui se décident à vivre, à manifester qu'ils cherchent Jésus, réellement, la persécution, elle est réelle. Sans compter pour beaucoup de, pour nous-mêmes qui sommes chrétiens catholiques engagés dans la vie professionnelle ou qui l'avons été, porter avec une détermination déterminada les fondements du regard chrétien sur la personne en tout temps et en tout lieu. Même sans le dire, en assumer les conséquences. Voilà. Dans les persécutions, les épreuves. Aux heures de sécheresse, alors la sécheresse, tout le monde, nous le savons tous, bien sûr, dans le langage de Sainte Thérèse, c'est comme dans celui de Jean de la Croix, c'est lorsque une de nos capacités à désirer le bien n'atteint pas son objet. C'est ne pas pouvoir, avec mon intelligence, par exemple, saisir suffisamment la lumière qui me permettrait de prendre une décision. L'obscurité, là, c'est ça. Alors bien sûr, dans son vocabulaire à elle aussi, étant donné que toutes nos facultés humaines ne sont pas encore devenues vertueuses du fait de leur implication dans notre vie théologale de foi, d'espérance et de charité, il y a des expériences de sécheresse qui ne sont rien d'autre que des libérations et qui étouffent progressivement les tendances dont on parlait hier pour les axer dans la ligne du dialogue intégral avec Dieu dont on se sait aimé. Dans les sécheresses, c'est un très bon ami que le Christ, car nous voyons l'homme en lui. On comprend à quel point, chez Thérèse, l'humanité sainte de Jésus, avec ses faiblesses et ses épreuves, elle n'a jamais pu arriver à comprendre comment on pouvait lui faire penser qu'il y avait une forme de vie spirituelle qui s'éloignerait de la corporéité de Jésus. Alors la question nous est posée à nous-mêmes, dans notre engagement au service de la bonne nouvelle du dialogue possible qui révèle la personne à elle-même et lui dévoile sa haute vocation, dans l'engagement qui est le nôtre d'une manière ou d'une autre, dans notre vie professionnelle concrète, encore une fois, d'attester que le dialogue est possible et que c'est un dialogue qui transforme. Eh bien, il faut nous interroger, comme d'ailleurs le fait le fond de nombreuses recherches actuellement, il faut nous interroger sur la façon par laquelle nous pouvons mieux intégrer les plus hautes réalités que nous appelons spirituelles ou surnaturelles. Intégrer en elles et les intégrer à la condition concrète de la personne que nous sommes, corps, âme, cœur, conscience, pensée et volonté. Je voudrais terminer en listant simplement pour vous, devant vous, les diverses dimensions de vie spirituelle telles que l'ensemble du Concile Vatican II les dégage. Ça résulte d'une étude exhaustive des documents conciliaires, lus donc dans leur phase finale et en profondeur avec leur construction. Alors, je le liste et ça nous servira de conclusion. Enfin, ça me servira de fin, sauf si, après, peut-être j'ai apporté un petit texte de Peggy qui est joli. Donc, d'abord, la première chose importante, la vie spirituelle concerne la personne tout entière. Deuxième élément, l'acte du vivant face auquel la vie spirituelle se confronte, c'est l'acte de la mort. Troisièmement, s'il s'agit de la personne tout entière, il y a une conjonction entre intériorisation avec toute la problématique de la conscience dans ses différents sens et la problématique de la liberté, c'est-à-dire de la capacité à se décider soi-même, et la personne dans tout son ensemble, intériorisation, libération, connaissance et saisie du bien, qu'on appelle aussi amour, indissociable. Cette personne se situe dans une histoire de péché et de grâce. La conséquence du péché, c'est l'auto-obscurcissement de la personne par refus de dépendance du Créateur. La vie spirituelle est donc nécessairement un combat. Ce combat du sujet en tant que tel, cette division qu'il expérimente, se diffuse dans toutes les formes de culture et sa manifestation la plus dramatique, c'est la rupture entre ce qu'on appelle culture et ce qui constitue la personne en tant que telle, à savoir la nature. Le Concile dit que toutes les fois qu'il est question de vie humaine, nature et culture sont intrinsèquement connectées. Si A implique B, non B implique non A, ce qui signifie que là où nature et culture sont déconnectées, il n'est plus question de vie humaine mais de mort humaine. Du point de vue proprement chrétien, la révélation chrétienne assume cette quête de la personne et en fait une appartenance théologale progressive au Christ. L'activité de la foi, le labeur de la charité, la constance de l'espérance. Et il s'agit bien d'un dialogue qui se poursuit dans un même mouvement entre l'homme et Dieu, qui est le Père de Jésus-Christ, et entre l'homme et ses semblables, qui deviennent frères dans le Christ. Tout ceci se fait progressivement au rythme de la transformation ou non du jugement, c'est-à-dire de la capacité à discerner, comme dit Paul. La lumière du Christ, qui parle dans l'Évangile, est la lumière la plus profonde qui est dans la profondeur de la profondeur de la personne. La parole évangélique et la voix de la profondeur profonde sont une dans la vision chrétienne. Il n'y a pas deux logoi, deux logos. Le logos créateur et le logos sarx egeneto, le verbe qui s'est fait chair, sont un et unique. En sorte que la rencontre qui fait la conversion est le moment où ce que j'entendais sans l'entendre au plus profond de moi m'est dévoilé par la parole du témoin qui m'apporte la parole de Jésus. En ce sens, il n'y a pas de christianisme simplement ésotérique, tourné vers l'intérieur, ou exotérique, tournée vers les œuvres, le christianisme en tant que tel, l'engagement chrétien en tant que tel, est lié, est un appel à l'unité dynamique de ces deux dimensions. Elle l'a cherché à Saint-Joseph d'Avila, elle l'a trouvé par obéissance pour aller accoucher la fille d'une duchesse, qui d'ailleurs a accouché avant même d'arriver, à, qu'elle arrive, Thérèse, pas la fille, elle était là, à Albe de Tormes. La vie spirituelle apparaît donc comme un lien profond entre prière et travail. Simul orat et laborat ecclesia, dit Vatican II. Mais attention à ne pas projeter dans prière le sens que notre tradition spirituelle personnelle, quelle qu'elle soit, ou notre expérience, lui donnerait spontanément. Attention aussi à ne pas projeter dans travailler l'expérience que nous en avons, nous, seulement. C'est beaucoup plus large que cela. Deux autres dimensions, et j'en termine. La vie spirituelle, comme telle, est donc intériorisation et extériorisation, comme transformation du monde. Une vie spirituelle qui n'a pas en charge la transformation du monde n'est pas spirituelle, selon le christianisme. Il y a beaucoup de manières de le faire. Mais c'est indispensable. Et dernier point, la vie spirituelle est la mission propre du christianisme. Pourquoi ? Parce que du point de vue de la foi catholique, elle est la réalisation dans la personne comme sujet social responsable de l'envoi du Fils et de la mission de l'Esprit-Saint à la gloire de Dieu le Père. Je vous remercie.
Un très grand merci, Étienne, pour toutes ces perspectives.